Alors, le sujet de la conférence de ce soir, de cette instruction, c'est tout simplement sur la messe et la communion. Alors, eh bien, essayons de voir quand même qu'est-ce que, même si c'est grand sujet que nous connaissons bien, au moins par la pratique, voir quels fruits nous pouvons en tirer pour notre âme. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, comme on vous l'a dit, vous l'avez écouté, entendu, s'est donc incarné en raison du péché de l'homme. Il s'est incarné pour le réparer et faire ainsi renaître la vie divine dans les âmes. Cette vie divine que nous avions perdue par le péché, eh bien notre Seigneur est venu s'incarner pour la faire revivre, de telle manière que les hommes ainsi puissent de nouveau être agréables à Dieu, donc le glorifier en ce monde et pour l'éternité. Ainsi, on peut dire que Jésus, dans son amour miséricordieux, a voulu assumer d'une certaine manière tous les péchés de l'humanité et s'offrir en sacrifice de rédemption et de propitiation à son Père pour restaurer bien la vie de l'Esprit Saint, pour restaurer la charité dans les âmes. Donc notre Seigneur a fait cette réparation par son sacrifice, le sacrifice du calvaire, qui apparaît ainsi comme la lumière qui luit dans les ténèbres, comme l'unique fontaine de vie au milieu du désert. Effectivement, le sacrifice du calvaire va permettre à l'homme de retrouver cette grâce de Dieu. Alors, par quels moyens Dieu va-t-il nous communiquer cette vie nouvelle? Eh bien, tout simplement en perpétuant le calvaire. En perpétuant le calvaire. Il n'y aura ainsi jamais qu'un sacrifice de la croix, qu'une hostie, qu'un prêtre, c'est-à-dire Jésus lui-même. Or, ce sacrifice du calvaire va devenir sur nos autels le sacrifice de la messe, qui, en même temps qu'il réalise le sacrifice de la croix, on va en parler, réalise aussi le sacrement de l'Eucharistie, qui nous rend participants à la vie, à la divine victime, Jésus crucifié. Donc ce sacrifice du calvaire va de nouveau être présent sur nos autels, c'est la messe, mais en même temps il va aussi être cette Eucharistie qui va nous rendre participants à la vie divine. Saint Paul le dit bien dans son épître, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et suivants. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon jour, à mon tour, je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on voit bien ici les deux caractères de l'Eucharistie, ce qu'on appelle l'Eucharistie, à savoir Jésus se donne en nourriture, donc ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est l'Eucharistie comme sacrement, donc par la communion, et aussi Jésus demande de reproduire et de continuer son sacrifice de la croix, c'est l'Eucharistie comme sacrifice, la messe. Donc ainsi, bien, nous verrons dans un premier point l'Eucharistie comme sacrifice, la Sainte Messe, et deuxième point, vous l'avez deviné, l'Eucharistie comme sacrement, la communion. Si on reposait un peu des questions de catéchisme, qu'est-ce que le sacrifice de la messe? Évidemment, vous le savez, néanmoins je vous le répète, je vous le rappelle, le sacrifice de la messe, c'est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ, offert à Dieu sur l'autel, sous les espèces du pain et du vin, pour représenter et renouveler le sacrifice de la croix et nous en appliquer les mérites. Définition un peu complète de ce que c'est que la messe. Donc c'est le sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ offert à Dieu sur l'autel, sous les espèces du pain et du vin, pour représenter et renouveler le sacrifice de la croix et nous en appliquer les mérites. Cette définition, c'est définition de la messe. Mais après, on peut être un peu perturbé, parce que si je vous demande, qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? On dit, la messe, c'est un sacrifice. Mais c'est quoi un sacrifice ? Alors, essayons de voir qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice. Alors, un sacrifice, c'est l'offrande d'une chose sensible, donc c'est une définition assez large, d'une chose sensible qu'on détruit si c'est un être inanimé, ou qu'on immole si c'est un être animé. Cette offrande est faite par un ministre légitime, faite à Dieu seul, pour reconnaître son souverain domaine, et dans le cas de péché, pour apaiser sa justice. Voilà ce qu'on peut définir comme un sacrifice. Donc on offre quelque chose à Dieu, quelque chose qu'on détruit si c'est un être inanimé, ou alors qu'on immole. Mais cette offrande n'est pas faite par n'importe qui, elle est faite par un ministre légitime. Et cette offrande est faite à Dieu seul. Pourquoi ? Bien pour bien reconnaître son domaine, son souverain domaine, parce que c'est lui le maître, le créateur de toutes choses. Ainsi, le sacrifice est un acte sacré. D'ailleurs, c'est dans le terme même sacrifice. Dans sacrifice, vous avez sacré. C'est un acte extérieur, un acte public, un acte solennel, par lequel les hommes rendent hommage à Dieu et protestent de leur dépendance absolue à son égard. En effet, Dieu veut recevoir le tribut d'adoration, de louange, d'action de grâce qui lui est dû, qui est dû à sa souveraine majesté. Et ce tribut, eh bien, il va le recevoir par le sacrifice. Alors le sacrifice a toujours existé, dès le commencement du monde. En effet, rappelez-vous l'histoire sainte, votre histoire sainte, on voit le premier sacrifice avec Caïn et Abel. Caïn qui offrait des fruits de la terre, et Abel qui offrait les premiers-nés de son troupeau. On voit bien dans la Sainte Écriture. Bon, c'est justement parce que Caïn a été jaloux de son frère Abel, qui voyait que les sacrifices de son frère étaient acceptés par Dieu et non pas les siens. Il a été pris de jalousie et a tué son frère. Mais on voit déjà, vous voyez, Caïn et Abel, donc tout de suite dès le début du monde, offrir des sacrifices à Dieu. On voit ensuite Noé, au sortir de l'arche après le déluge. Eh bien, il va offrir tout de suite un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Ensuite, dans tous les grands patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Là aussi, on le voit. Et puis Dieu, ensuite, va donner sa loi aux Hébreux par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï. Et là, il va régler les sacrifices jusque dans les moindres détails. Tout va être précisé. On a ça déjà encore dans quelques livres de l'Ancien Testament, le Lévitique. Par exemple, on voit que le sacrifice le plus solennel, c'est l'Holocauste, ce qu'on appelle l'Holocauste. C'est-à-dire, c'est le sacrifice où la victime est détruite entièrement par le feu. Bon, Dieu aussi va choisir des prêtres consacrés à leur offrande, offrande de ce sacrifice. Et il va faire construire dans le désert un tabernacle portatif en attendant l'érection du temple de Jérusalem, qui sera fait par Salomon. Vous voyez, Dieu va même en bien encadrer les sacrifices. Mais il faut bien se dire que ces sacrifices offerts à Dieu depuis le commencement du monde ne lui étaient agréables que comme figure du sacrifice de son Fils, qu'en union par la foi à ce grand sacrifice. Tout simplement, tous ces sacrifices figuraient le sacrifice de notre Seigneur. C'est en ce sens que ces sacrifices étaient agréables à Dieu. Et puis vient notre Seigneur, l'incarnation de notre Seigneur. Et quand on voit toute la vie de notre Seigneur dans l'Évangile, il n'a de cesse de préparer ce sacrifice de la croix. Il va le faire en faisant de sa vie un sacrifice continuel par la plus parfaite soumission à la volonté de son Père. Là aussi, saint Paul le dit bien, donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5 et suivant. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit « Vous n'avez voulu ni sacrifice ni oblation, mais vous m'avez façonné un corps. Vous n'avez agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit « Voici, je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre. Je viens pour faire, ô Dieu, votre volonté. » Il commence par dire « Sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés, vous ne les avez pas voulu ni agréé. » Et cependant, ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare « Voici, je viens pour faire votre volonté. » Il abroge le premier régime pour fonder le second. Il abroge l'Ancien Testament pour fonder le Nouveau Testament. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc voyez, notre Seigneur vient bien, je viens faire la votre volonté, en parlant à son Père. D'ailleurs, on peut être que frappé par l'insistance de notre Seigneur durant toute sa vie terrestre sur son heure. Mon heure n'est pas encore venue, voici que mon heure arrive, etc. Donc toute cette expression de notre Seigneur, mon heure, c'est quoi? Eh bien, c'est son sacrifice, la croix. Aussi, dit-il, j'ai désiré d'un grand désir cette heure de mon immolation. Donc on voit vraiment toute la vie de Jésus étendue vers la croix, vers son sacrifice. Et le sacrifice de la croix, donc, fut un véritable sacrifice. Il fut un véritable sacrifice car on retrouve les éléments de la définition du sacrifice que je vous ai donné, on le retrouve dans la croix. En effet, le sacrifice de la croix, c'est une offrande extérieure d'une chose sensible. Qu'est-ce qui va s'offrir sur la croix ? C'est l'humanité de Jésus-Christ, de notre Seigneur. L'offrande est faite à Dieu. Notre Seigneur s'offre à son Père. Le ministre légitime, c'est Jésus lui-même, c'est le Fils de Dieu fait homme, dont il est écrit, vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek. Donc on a dit la destruction, donc l'immolation, c'est la mort de notre Seigneur sur la croix, avec effusion de tout son sang. Et le but de cette immolation, c'est de reconnaître le souverain domaine de Dieu, pour la gloire de Dieu. Donc on voit le sacrifice de la croix est même le seul véritable sacrifice. Parce que la victime et le prêtre de ce sacrifice étant Dieu, c'est le seul par lequel la majesté divine, outragée par le péché, a reçu un honneur digne d'elle. Et une satisfaction, une réparation pleine, entière, surabondante. Donc c'est le seul sacrifice par lequel le péché a été expié. Et donc par lequel l'homme, purifié ainsi par le sang de la victime, est devenu lui-même une hostie digne d'être offerte à Dieu. Donc c'est véritablement le seul véritable sacrifice, le sacrifice de la croix. Cependant, ce sacrifice de la croix a eu lieu il y a 2000 ans, donc le seul véritable sacrifice. Et à l'homme, il faut pourtant, qui est esprit et corps, nous avons une âme et un corps, il nous faut un sacrifice de religion qui soit extérieur, sensible, parce que nous sommes âme et corps. Or, tous les sacrifices de l'ancienne loi ont été rejetés par Dieu, qui n'a eu pour agréable que l'oblation de son Fils. Donc, il est nécessaire que le sacrifice de la croix se continue sur la terre jusqu'à la fin des siècles. Et qu'est-ce qui va continuer ce sacrifice de la croix sur la terre? C'est le sacrifice de la messe. Donc le sacrifice de la messe qui lui aussi est un véritable sacrifice. Il va continuer le sacrifice de la croix, donc c'est le même sacrifice de la croix, mais il est lui-même un véritable sacrifice. Parce qu'il renferme toutes les conditions pour un sacrifice. Donc, vous savez, le sacrifice est une offrande. Eh bien, la messe, qu'est-ce que c'est? C'est l'offrande du corps et du sang de Jésus-Christ. Donc, c'est bien une offrande, c'est bien un sacrifice. On disait aussi que pour un sacrifice, c'est l'offrande extérieure d'une chose sensible. Eh bien, le corps et le sang de Jésus-Christ sont rendus sensibles par les espèces du pain et du vin, donc par la présence réelle, dont on parlera plus tard. Ensuite, c'est une offrande qui est faite à Dieu seul. Effectivement, la messe est offerte à Dieu seul. Elle est faite par un ministre légitime. La messe n'est célébrée que par ceux à qui notre Seigneur a dit « Faites ceci en mémoire de moi », donc par les prêtres, un ministre légitime. Et c'est l'offrande d'une chose sensible qui est changée par le ministre. Et ça, c'est par les paroles de la consécration, notre Seigneur est mis en état de victime, à l'état de victime. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, donc séparation du corps et du sang, état de victime de notre Seigneur. Donc vous voyez, on voit bien que la messe, effectivement, remplit toutes les conditions du sacrifice. Donc la messe est véritablement, est essentiellement le même que celui de la croix, parce que nous avons la même victime, Jésus-Christ, nous avons le même prêtre, Jésus-Christ. La seule différence, c'est dans la manière dont il est offert. Voilà ce que dit le Concile de Trente. C'est la seule et même victime, le même Jésus-Christ qui s'est offert autrefois lui-même sur la croix et qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres, sans qu'il y ait de différence entre l'une et l'autre oblation que dans la manière. Saint Ambroise disait, il n'y a qu'une même hostie offerte sur la croix et sur l'autel. Alors la différence, c'est dans la manière dont le sacrifice est offert. Alors quelles sont ces différences? Bien évidemment, sur la croix, la mort de Jésus fut réelle. Il versa son sang et sépara volontairement son âme de son corps. Donc mort réelle de notre Seigneur sur la croix, séparation de son âme et de son corps. À la messe, son état de mort va être qu'apparent, évidemment. Il est ressuscité et maintenant notre Seigneur ne meurt plus. Donc c'est une mort mystique. État de mort. Sur la croix, notre Seigneur s'offre immédiatement et de manière visible à son Père. À la messe, il va s'offrir de manière invisible. On ne va pas voir notre Seigneur s'offrir à son Père, sauf si vous avez peut-être des visions. Mais autrement, a priori, ça ne se voit pas. Et il va s'offrir par l'intermédiaire des prêtres. Évidemment, il va utiliser des prêtres pour s'offrir. Et puis enfin, sur la croix, eh bien, il mérita une fois pour toutes, il paya la dette de l'humanité, et à la messe, il va nous appliquer les mérites, les satisfactions. Mais essentiellement, il faut bien se rappeler, c'est le même sacrifice. Donc c'est important de bien le savoir, surtout avec la mentalité protestante d'aujourd'hui. Donc si vous voulez, c'est vraiment ce sacrifice de la croix qui est rendu présent sur l'autel, qui se continue sur l'autel. Et donc ce n'est pas qu'une mémoire, parce que les protestants et les modernistes souvent vont dire on fait mémoire de son repas, on fait mémoire de son sacrifice. Non. Évidemment, il y a une mémoire, mais ce n'est pas que ça, c'est un véritable sacrifice. Alors essayons de voir, pour goûter un peu plus la messe, les fruits de la messe. Donc là, je vous ai fait un petit rappel de doctrine, mais maintenant, quels sont les fruits? Déjà, il faut se dire que les fruits de la messe sont inépuisables, parce que ce sont les fruits mêmes du sacrifice de la messe, de la croix, pardon. Voilà ce que dit Dom Marmion dans le Christ vie de l'âme. Quand donc nous éprouvons le désir de reconnaître l'infinie grandeur de Dieu et de lui offrir, malgré notre pauvreté de créature, un hommage qui soit agréable à sa majesté, un hommage qui soit sûrement accepté de nos mains, assistons, offrons le saint sacrifice, ou bien assistons-y et présentons à Dieu la divine victime. Le Père éternel reçoit d'elle, comme au calvaire, un hommage d'une valeur infinie. Et aussi pour nous, le saint sacrifice doit être une source de confiance et de pardon. Lorsqu'on est accablé par le souvenir de nos fautes, et ça arrive, toutes nos fautes qui nous pèsent, et que nous cherchons un moyen de réparer nos offenses, ou de satisfaire avec plus de plénitude à la justice divine, c'est-à-dire de réparer un petit peu toutes nos offenses, de telle manière que nos peines soient remises, le moyen le plus efficace et le plus rassurant, c'est la messe, d'écouter la messe. C'est ce que dit le Concile de Trente. Par cette oblation de la messe, Dieu apaisé accorde la grâce et le don de pénitence. Il remet les crimes et les péchés, même énormes. Alors, précisons, est-ce que ça veut dire que la messe remet directement les péchés? Non. Cela est réservé au sacrement de pénitence et à la contrition parfaite. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire que la messe contient des grâces abondantes et puissantes qui éclairent le pécheur. Donc c'est-à-dire, on d'assister à la messe, il y a telle grâce attachée à la messe que le pécheur va se rendre compte de son état, il dit, quel état de pécheur, et ça va le pousser à faire des actes de repentir, de contrition, et donc d'aller se confesser. Pour ça, ce que dit le Concile de Trente, Dieu remet les crimes et péchés même énormes. C'est-à-dire, par la messe, effectivement, on va obtenir de nombreuses grâces pour avoir la contrition et donc d'aller se confesser. Et donc, par là, retrouver l'amitié de Dieu. Mais si cela est vrai du pécheur qui n'est pas encore absous, c'est encore plus vrai pour les âmes qui sont déjà en état de grâce, mais qui cherchent, comme je le disais, une réparation aussi plénière que possible. Donc c'est vraiment une source de pardon, la messe. Et puis, ayons aussi une grande confiance dans ce sacrifice. Parce que, quelles que soient nos offenses et notre ingratitude, on peut dire qu'une messe donne plus de gloire à Dieu que ne lui en a enlevé, pour ainsi dire, toutes nos injures. Donc, on a assisté à la messe, donne plus de gloire à Dieu qu'à limite lui ont enlevé tous nos péchés, toutes nos injures. C'est bien de se le rappeler. De temps en temps aussi, on se souvient des miséricordes du bon Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous. Quand on regarde un peu notre vie, toutes les grâces qu'on a obtenues, la messe va être l'action de grâce par excellence, la plus parfaite, la plus agréable que nous puissions rendre à Dieu. Donc vraiment, source de confiance, de pardon, d'action de grâce. La messe est vraiment l'idéal pour cela. On peut dire aussi, la messe est un sacrifice d'impétration, c'est-à-dire de demande. En effet, nous avons des besoins immenses. Nous avons sans cesse besoin de force, de lumière, de consolation. Nous trouverons tous ces secours à la messe. Parce qu'à la messe, est vraiment présent sur l'autel celui qui a dit, rappelez-vous, je suis la lumière du monde, je suis la voie, la vérité, la vie. Venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous soulagerai. Notre Seigneur qui nous a dit ça est vraiment présent sur l'autel. Si quelqu'un vient à moi, je ne le repousserai pas. Rappelez-vous toutes ces paroles de l'Évangile. Pendant la messe, il est là, il s'offre à son Père pour nous. Donc il offre ses satisfactions infinies pour nous obtenir les grâces de vie dont nous avons besoin et qui nous sont nécessaires. Donc notre Seigneur, pendant la messe, va appuyer de ses mérites nos demandes, nos supplications, toutes nos demandes légitimes. Donc on peut être plus assuré qu'à ce moment favorable d'obtenir les grâces dont nous avons besoin. C'est le moment ou jamais. Donc, c'est l'endroit où on peut obtenir toutes les grâces. Mais évidemment, il faut demander toutes ces grâces avec confiance. Si on y va en disant, de toute façon, je ne suis pas sûr, je suis sûr de rien obtenir, là, évidemment, on n'obtiendra rien. Là, c'est sûr. C'est la condition pour être exaucé. Donc, on doit assister à la messe avec foi et confiance. C'est-à-dire que le sacrifice ne va pas agir à nous comme les sacrements, c'est-à-dire, bon, on dit d'un terme un peu savant, ex opere operato, c'est-à-dire de par lui-même, non. Les fruits du sacrifice sont inépuisables, mais ils se mesurent en grande partie à nos dispositions intérieures. C'est-à-dire, il y a pour nous dans chaque messe des possibilités infinies de perfection et de sainteté, mais la mesure des grâces que nous y recevons est la mesure de notre foi et de notre amour. C'est-à-dire, si vous avez peu de foi, peu d'amour, peu de confiance, eh bien vous aurez peu de grâce. Si au contraire, votre foi est de plus en plus grande, ben vous obtiendrez de plus en plus de grâce. Ça sera en proportion de votre foi, de votre confiance, de vos dispositions intérieures. Donc bien se le rappeler quand on assiste à la messe. Mais en soi, les fruits sont inépuisables. Tout dépend de nous pour les obtenir. Alors peut-être aussi quelques mots pour notre manière d'assister à la messe. Comme je viens de le dire, tout dépend de notre disposition. Eh bien, c'est vrai que nos dispositions vont dépendre aussi de la manière d'assister à la messe. Voilà ce que dit Don Marmion. C'est une très excellente manière d'assister au Saint-Sacrifice que de suivre des yeux, de l'esprit et du cœur ce qui se passe à l'autel, de s'associer aux prières que l'Église met en ce moment si saint sur les lèvres de ses ministres. Donc, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la misselle et suivre les prières du prêtre. Quand nous nous unissons ainsi, par une profonde révérence, une foi vive, un amour ardent, une véritable contrition de nos fautes au Christ, pontife et victime de son sacrifice, le Christ qui vit en nous prend dans son cœur toutes nos intentions et présente pour nous à son Père une adoration parfaite, une satisfaction plénière. Il lui rend de dignes actions de grâce et sa prière est toute puissante. Donc effectivement, bien y assister. Alors, comment faire un peu plus concrètement? Bien évidemment, pendant la messe, essayer autant que faire se peut d'être attentif, d'être cueilli. Ne vous amusez pas à compter les personnes qui sont là. Tiens, ils sont venus qu'à trois, tiens, il est où celui-là? Tiens, je le note, il n'est pas venu à la messe. Donc, pour cela, il faut veiller sur ses sens, sur sa curiosité. Il faut veiller sur son esprit, sur son cœur. Ah tiens, ce garçon est là. Ah bien, je vais le voir après la messe, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Ah, ça fait plaisir qu'il soit là. Ben tiens, j'ai envie d'assister à la messe tout d'un coup. Bon, enfin bref, je dis ça comme ça. C'est sûrement pas votre cas. Mais voyez donc, être recueilli, être attentif, afin de soutenir l'attention. Et pour soutenir l'attention, bien c'est vrai, le missel aide beaucoup. Si vous arrivez les mains dans les poches, là c'est vrai que vous attendez que ça se passe, et puis bon, ouf, le sermon était long aujourd'hui. Ça durait longtemps aujourd'hui. Donc être attentif et recueilli. Ensuite, pour rentrer dans les dispositions un petit peu de notre Seigneur, avoir toujours ce grand repentir de nos fautes, évidemment, en se souvenant que c'est pour les expier que notre Seigneur s'immole sur l'autel. Pour aider aussi à bien assister, on peut se fixer un but particulier, par exemple obtenir telle ou telle grâce, pratiquer telle ou telle vertu, ou vaincre telle tentation, par exemple, ou alors obtenir telle grâce pour soi, pour son prochain, pour sa famille, pour ses enfants, etc. Donc se fixer un but. Tiens, je vais assister à cette messe, je vais l'offrir pour telle personne, pour telle intention. Là aussi, ça peut nous aider. Puis s'offrir, évidemment, surtout au moment de la consécration avec Jésus-Christ, avec notre Seigneur. Offrir tous nos sacrifices aussi avec lui. Et puis, considérer ce changement du pain et du vin encore en notre Seigneur, en sang de notre Seigneur, bien qu'il doit être un peu le symbole de ce qui doit s'opérer en nous. C'est-à-dire d'abandonner cette vie de péché pour suivre la vie de la grâce. Donc sachez bien préparer vos messes.
Des messes avant, surtout si vous avez des enfants, des petits-enfants. Parce qu'évidemment, vous allez me dire, mais ça c'est beau, ça c'est pour les célibataires, mais quand on a des enfants, c'est pas toujours facile hein, de suivre nos messes. C'est vrai. Alors faut pas être troublé. Encore une fois, le bon Dieu voit nos intentions. Donc, quand on a des enfants, c'est bien qu'ils viennent assister à la messe, mais il faut aussi leur apprendre à bien se tenir. Donc ça, c'est quand même important. Donc, il ne faut pas que l'enfant considère la chapelle, l'église, comme une cour de récréation, hein, comme un parc, comme un jeu, hein, et puis que le laisser courir partout. Non, il faut lui apprendre à faire sa génuflexion, à être calme, à bien se tenir. Alors là aussi, ça dépend de l'âge. Alors je vous parle vraiment de expérience. Hein, je suis pas un expert dans comment on appelle ça, s'occuper du jeune âge des nourrissons. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'a priori, de la naissance jusqu'à à peu près, enfin, ça dépend, vers 16 mois à peu près, donc avant que l'enfant marche. Bon, en général, l'enfant c'est relativement calme. C'est-à-dire, il dort. S'il dort pas, c'est qu'il a faim. Donc il se met à hurler. Donc dans ce moment-là, il faut mieux sortir. Hein, au lieu de laisser hurler. Généralement, les ruses, vous savez, de temps en temps, on met son doigt dans sa bouche. Bon, j'ai vu que ça marche 5 minutes, ça. Et puis l'enfant, il se rend compte qu'au bout d'un certain temps, c'est de la gruge, comme on dit. Donc là, bon, ça marche 5 minutes, mais après, ça ne marchera plus. Donc il faut carrément le sortir, lui donner à manger. Bon, après, jusqu'à 16 mois, tant qu'il ne marche pas, c'est vrai qu'il reste plus ou moins sagement sur les genoux. Bon, ça dépend des caractères aussi. Alors après, j'ai constaté une période assez pénible pour les parents. À partir du moment où il marche, jusqu'à... Alors après, ça dépend aussi. Peut-être 3-4 ans. Enfin, ça encore, ça dépend des caractères. Là, évidemment, à cet âge-là, ils ne veulent plus tellement rester sur les genoux parce qu'ils ont pris goût à la liberté de marcher. C'est quand même beaucoup plus drôle que de rester sur des genoux. Alors là, évidemment, je vois les pauvres parents, ils restent là... Ah là, c'est... Alors quand il y en a deux, trois, il y en a partout. Ça court partout. Et puis il y a derrière... Enfin, je vois que ça évoque certaines choses pour vous quand même. Alors que faire? Alors que faire? Eh bien, je crois qu'il y a deux choses. Il faut veiller quand même à cette charité. Donc, de la part des personnes qui n'ont pas ces enfants, dont les enfants ne sont pas loin... De temps en temps, il faut savoir avoir un peu de patience. C'est vrai, c'est pas parce qu'il y a un petit gazouillis ou il remue un petit peu qu'il faut tout de suite faire les gros yeux, etc. Donc il y a un peu de patience à avoir, ça c'est vrai. Mais de la part des parents aussi, savoir que lorsque l'enfant gêne, bah avoir la charité, tout simplement, d'aller au fond de l'église, de la chapelle. Puis même s'il crie, s'il est impossible, bah tant pis, vous sortez. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez lu votre messe avant, ben vous vous unissez à la messe qui est en train de célébrer. Mais là, vous faites votre devoir. Donc, le bon Dieu voit vos efforts. Et il n'y a pas de faute, ainsi, à louper une partie de la messe. Hein, mais ça, c'est pour la charité. Et puis ensuite, apprendre à l'enfant, bon, si c'est vraiment un caprice, vous pouvez très bien donner une fessée dehors. Dehors. Mais oui, parce que bon, c'est un caprice, et puis apprendre à bien se tenir. Hein. Enfin, voilà. Mais soyez pas troublés si effectivement vous dites oh, j'ai pas assisté à ma messe, j'étais sans arrêt dehors avec mon enfant. Bah tant pis, hein. Bon Dieu vous ne demande pas l'impossible. Et puis bah, en espérant que le dimanche d'après l'enfant se tienne mieux. Voilà, donc soyez pas troublés, mais c'est une bonne chose de préparer sa messe avant. Comme ça on n'est pas surpris. Au moins on sait quels étaient les textes de la messe, même si l'enfant fait la foire. Bien, voilà donc l'Eucharistie comme sacrifice. Alors arrivons maintenant à l'Eucharistie comme sacrement. Donc pour pouvoir participer plus pleinement à ce sacrifice, évidemment, ça va être la communion. Alors la définition de l'Eucharistie comme sacrement, là aussi je ne fais pas l'injure de vous la demander parce que vous la connaissez. Donc c'est un sacrement qui contient vraiment, réellement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sous les espèces ou apparences du pain et du vin consacrés, et produit la grâce dans nos âmes par la communion. Alors peut-être, je vais d'abord insister, et c'est vrai, j'en ai très vite abordé rapidement pour le sacrifice, c'est sur la présence réelle. Évidemment, pour qu'il y ait sacrifice, il faut une victime. Et la victime est vraiment sur l'autel, parce que notre Seigneur est présent réellement. Comme je viens de dire, vraiment, réellement, substantiellement. Donc il est là, ce n'est pas une présence spirituelle. Par exemple, le fait de tous penser à un moment une même personne, on peut dire que la personne est présente de manière spirituelle, parce que tous, on pense à telle personne. Si je sais pas, on pense tous à, au pape, par exemple, on se met tous à penser au pape, on va dire, bah tiens, le pape, d'une certaine façon, est présent spirituellement, parce qu'on y pense tous. Non, là, la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, évidemment, c'est pas ça. C'est une présence beaucoup plus importante, c'est une présence réelle. Ça se voit bien tout simplement parce qu'il nous a dit, lors de la scène, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Notre Seigneur n'a pas dit « Ceci est l'image de mon corps, ceci symbolise mon corps, ceci symbolise mon sang ». Non, il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et quand on voit dans sa vie publique, quand notre Seigneur disait quelque chose, un ordre, il était automatiquement réalisé. Vous avez l'exemple avec de nombreux malades, par exemple, ou des lépreux. Un lépreux qui vient le voir un jour, et qui lui demande sa guérison, et notre Seigneur, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je le veux, sois guéri. Et instantanément, le lépreux est guéri. Plus de lèpre. Donc quand notre Seigneur affirme quelque chose, cela se passe. Donc de même, quand à la dernière scène, il a dit ceci, « Est mon corps », eh bien ce pain s'est transformé en son corps, et ce sang, ce vin s'est transformé en son sang. Mais vous allez me dire, mais on ne voit que nos sens, nos yeux, nos toucher, tout ça, ben on voit que du pain et que du vin. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas une ruse de Dieu? Il nous fait croire qu'il y a du pain, il y a son corps et son sang, alors qu'on ne voit que du pain et du vin. Non. Parce qu'effectivement, nos sens ne voient que ce qu'on appelle les accidents, les espèces, la forme, la couleur, le poids, etc. Donc ça c'est vrai, nos sens ne sont pas trompés. Mais notre intelligence qui, elle, pourrait être trompée, en disant, ben, mes sens me disent que il n'y a que du pain du vin, donc c'est du pain du vin, c'est pas autre chose. Non. Notre intelligence, elle, n'est pas trompée par la foi. C'est-à-dire par cette révélation que Dieu nous en a faite. Il nous a dit, oui, effectivement, ce n'est plus du pain, c'est mon corps. Donc, c'est une attitude de foi. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas la foi, avant, après la consécration, il voit que du feu, c'est pareil. Enfin, du feu, il voit du pain et du vin avant et après. Nous, non, par la foi, nous disons, non, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. C'est vraiment Jésus présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Donc, ayons bien cette foi solide, hein, qui se fonde, qui repose sur les paroles de notre Seigneur, qui est Dieu, et comme Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Donc, la Sainte Eucharistie est vraiment un domaine où notre foi doit s'exercer. Bon, ensuite, évidemment, le bon Dieu, il connaît notre faiblesse. Il a permis de nombreux miracles de la Sainte Eucharistie qui se sont produits dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, je pense que vous connaissez le miracle de Favernet. Je crois que Favernet ne doit pas être très loin d'ici. Donc, ce reposoir qui a brûlé, et puis, donc c'est au 17e, et l'ostensoir est resté, donc suspendu en l'air. Tout le reposoir, tout a brûlé, sauf l'ostensoir, qui est resté suspendu en l'air pendant 33 heures. Et ça peut être constaté par des témoins, il restait. Et puis au bout de 33 heures, il est allé se reposer sur un autel où un prêtre disait la messe à côté, enfin sur un autre autel. Donc ça, c'est bon, un grand miracle, évidemment. Vous avez d'autres miracles de Lanciano, où vous avez l'hostie qui s'est vraiment transformée en chair et le vin en sang, et qu'on peut toujours contempler aujourd'hui. Donc ce bout de chair est conservé. Donc ça s'est passé. Attends, je vais avoir un doute là. Je vais dire des bêtises. Il me semble au 8e siècle en Italie, Lanciano. En tout cas, l'ostensoir, on le voit aujourd'hui. On peut tout à fait le contempler. Et de même, le sang qui est coagulé. Il y a eu des études scientifiques faites à ce sujet. C'est vraiment un morceau de chair, un morceau de cœur d'ailleurs. C'est vraiment du sang humain. Et même ils ont déterminé le groupe sanguin, c'est le groupe AB, et comme par hasard, c'est le même que celui du Saint-Suaire. voyez, c'est vraiment un miracle qu'on peut constater encore aujourd'hui. Vous avez un autre miracle un peu amusant aussi, enfin amusant. C'est à Turin en 1453. Donc c'est un voleur. Il est allé dévaliser une église à Turin. Il s'est emparé de tous les ciboires. Mais il n'a pas eu peur de faire de sacrilège. Il a pris aussi les ciboires dans le tabernacle. Donc il y avait la présence réelle. Et puis il charge tout ça sur son cheval. Et puis il commence à partir. Puis à un moment, le cheval s'arrête. Impossible de bouger. Il se couche. Impossible de le faire relever. Son cheval reste couché. Bon, alors, évidemment, il y a des gens qui commencent à être intrigués, qui commencent à arriver de partout. Alors, j'imagine, lui, il devait être un peu embêté. Et puis, tout d'un coup, quelqu'un va commencer à regarder un peu ce qu'il y avait sur le cheval, et puis il voit un ciboire, il ouvre un ciboire, et tout d'un coup, il voit, il y a une hostie qui sort du ciboire et qui monte à 16 mètres de hauteur, qui reste comme ça suspendue en l'air, à 16 mètres de hauteur. Alors tout le monde évidemment est très intrigué, on va appeler le curé appelle l'évêque, etc. Donc l'évêque organise tout de suite une procession, et il arrive vers ce lieu où l'hostie était au-dessus du cheval qui était couché par terre, et il offre un ciboire, et on voit l'hostie qui descend dans le ciboire. Et ainsi, bien, il a pu récupérer de ces hosties-là. Donc il y a une église qui a été construite à Turin sur cet endroit, l'église du Corpus Domini. Donc vous voyez, bon, ça fait partie de tous les prodiges eucharistiques, et il y en a des dizaines et des dizaines. Tout ça pour renforcer un petit peu, évidemment, notre foi. Mais on n'a pas besoin de ces miracles pour avoir la foi, évidemment. Donc quels sont surtout les effets de la Sainte Eucharistie, qui doit nous pousser à toujours bien la recevoir? Eh bien, elle produit une augmentation évidemment de la grâce habituelle, donc une augmentation de la grâce. Et notre Seigneur nous dit, ma chair est vraiment un aliment et mon sang un breuvage. Donc on va avoir un peu pour notre âme les mêmes effets que la nourriture. Donc ça va être une véritable union, on va recevoir réellement, physiquement, caché sous les saintes espèces, notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire qu'on est ainsi vraiment des tabernacles, même mieux encore on peut dire des ciboires, où Jésus habite et vit. Et notre Seigneur, bien petit à petit, je veux dire, entre Jésus et nous, il va avoir une union semblable à celle qui existe entre la nourriture et celui qui se l'assimile. Avec toutefois cette différence, évidemment, que c'est Jésus qui va se transformer, qui nous transforme en lui plutôt. Ce n'est pas nous qui allons le transformer en notre substance, évidemment. Mais c'est nous qui allons être transformés en notre Seigneur. Et donc, cette union, on peut vraiment l'appeler transformante. C'est-à-dire que peu à peu, nos pensées, nos idées, nos convictions, nos jugements vont se modifier. C'est-à-dire qu'on va tout voir sous le regard, avec le regard de notre Seigneur. Si évidemment nous nous laissons faire, si nous recevons la Sainte Eucharistie avec grande dévotion. Ensuite, notre cœur, bien petit à petit, va se débarrasser de son égoïsme, plus ou moins conscient, de ses affections naturelles, sensibles, pour aimer le bon Dieu avec plus d'ardeur. Donc, on va avoir une vie de plus en plus surnaturelle, vie divine plus intense que dans le passé. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Donc ce n'est plus moi, c'est-à-dire plus le vieil homme qui vit, pense et agit, mais c'est Jésus lui-même qui va nous fortifier, nous vivifier. Ensuite, aussi bien se dire qu'avec la Sainte Communion, la Sainte Eucharistie, notre Seigneur va venir avec la Sainte Trinité. Les trois personnes vont venir. Donc il ne vient pas seul, il vient avec son Père et le Saint-Esprit. Donc on va voir aussi vraiment, nous, l'habitation dans notre âme de la Sainte Trinité. Souvent, on l'oublie un petit peu, ça. Que notre Seigneur est vraiment, réellement présent. Et donc, on a un hôte divin en nous. Alors pour pouvoir bénéficier de ces effets, je suis un petit peu rapide parce que le temps passe, il faut évidemment avoir de bonnes dispositions. Quelles sont ces dispositions pour en profiter? Alors évidemment, tout d'abord, la disposition de précepte pour notre âme, c'est l'état de grâce, ça c'est évident. Il faut être en état de grâce pour recevoir notre Seigneur. Bon, ça se comprend, on ne donne pas de la nourriture à un cadavre. On ne nourrit pas un cadavre. Eh bien, notre âme en état de péché mortel, c'est un cadavre. C'est pareil, elle a encore la vie naturelle, mais elle n'a plus la vie surnaturelle, elle n'a plus la vie divine. Donc on ne peut pas recevoir notre Seigneur dans cet état-là. Peut-être juste un cas où certains se posent la question. Par exemple, on a un péché mortel sur la conscience. Est-ce qu'il suffit de faire un acte de contrition parfaite avant d'aller communier? Non. Il faut faire, bien sûr, le plus tôt possible un acte de contrition parfaite, mais il faut d'abord se confesser. Ne dites pas, j'irai me confesser après la messe. Non. On va d'abord se confesser avant la messe pour pouvoir communier. Et ça, c'est un précepte divin et un précepte ecclésiastique. C'est ce que dit le Concile de Trente. Je vous lis, ça permet d'avoir les idées bien claires à ce sujet. Celui qui veut communier doit se souvenir de ce précepte que l'homme s'éprouve lui-même. Ça vient de saint Paul. Or, la coutume de l'Église fait voir que l'épreuve qui est nécessaire consiste en ce que personne ne doit se présenter à la communion avant de s'être confessé au prêtre s'il se sent coupable d'une offense mortelle, quelque contrition qu'il croit avoir de son péché. Ce que le Saint-Concile ordonne devoir être perpétuellement observé par tous les chrétiens. Donc effectivement, on doit d'abord se confesser. Ensuite, évidemment, bien se préparer. Donc, se préparer de manière lointaine, en accomplissant bien nos devoirs d'État, en union avec notre Seigneur. Avoir une autre disposition, l'humilité sincère, basée sur la grandeur et la sainteté de Dieu, et puis sur notre indignité, notre bassesse. Donc ces paroles qu'on dit trois fois de communier, « Domine non sum dignus, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. » Donc bien les dire, que ce ne soit pas de la routine, mais vraiment se pénétrer de cet esprit d'humilité, se libérer de notre orgueil, de notre égoïsme, de notre présomption. Et puis ensuite, évidemment, l'autre disposition fondamentale pour notre âme, c'est le désir ardent de s'unir à notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Sentir vivement notre impuissance, notre pauvreté, et soupirer après celui qui est au contraire notre seule force. Donc évidemment, avoir ce grand désir de s'unir à notre Seigneur. Ensuite, les dispositions pour notre corps, c'est évidemment le jeûne eucharistique. Donc le jeûne eucharistique, c'est sub gravi, c'est matière grave. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de raison grave, sauf par exemple en danger de mort, évidemment, on peut communier avoir le viatique sans être à jeun. Autrement, non, si on n'est pas à jeun, on ne peut pas communier. Bon, alors le jeûne, alors ce qui est strictement obligatoire aujourd'hui dans la discipline actuelle de l'Église, c'est une heure. Une heure, donc, pour ne pas manger de boisson, manger de nourriture solide et de boisson alcoolisée ou non alcoolisée, une heure. Ça, c'est strict minimum. Bon, évidemment, on conseille, nous, de suivre la discipline depuis 12, donc qui était de 3 heures. Donc 3 heures pour la nourriture et pour les boissons alcoolisées et 1 heure pour les boissons non alcoolisées. Bon, sachant dans tous les cas que de toute façon l'eau naturelle ne rompt pas le jeûne eucharistique. Bon, puis en plus, pour les malades, évidemment, on peut prendre des médicaments, ça ne rompt pas le jeûne. Ensuite, disposition de convenance, évidemment, c'est se présenter pour communier avec, on précise, avec des vêtements propres, une mise convenable, qui ne soit ni sordide, ni trop recherchée, avoir une tenue décente, modeste et recueillie. Bon, là, on pourrait développer. Enfin, j'espère que vous savez ce que ça veut dire. Hein, donc, ne soyez pas surpris, de temps en temps, vous dites, il y a des prêtres qui sont sévères. C'est normal, hein, une mini-jupe, c'est pas une tenue décente, je suis désolé. Donc, enfin bref, pareil, pour ça, c'est la tenue modeste, quoi. Ça se faisait plus à une époque, quoi qu'aujourd'hui encore, que les grands décolletés, non, c'est pas décent. Donc là aussi, faire attention. Bon, on dit tenue trop recherchée, bon, vous connaissez toujours l'histoire qui fait peut-être rire d'ailleurs que les hommes. Ouh là là, la femme qui vient au banc de communion très fardée, plein de maquillage partout. Et puis le prêtre qui arrive et qui dit « Attention Jésus, peinture fraîche !» Enfin bref, donc voilà, soyons modestes, quoi, tout simplement. Soyons chrétiennes, quoi. Bien, et puis soyons recueillis aussi, hein. Donc attention à la folle du logis, hein, l'imagination qui souvent cavale. Ah, c'est là, tiens, son foulard, qu'est-ce qu'il est moche. Pas possible, il a pris sa prise unique. Et puis, qu'est-ce que celui-là? Ah, celui-là, il est en train de me doubler, lui. Oh, le vieux schnock, tiens, tu vas voir. Je vais lui marcher sur les pieds, comme ça, il saura. Et là, oh, pardon, monsieur. Non, enfin bon, je pense que c'est pas tout ça, mais bref, non, soyons recueillis. Et puis si quelqu'un vous double, passe devant, bah tant pis, vous offrez ça, c'est un petit sacrifice, et puis voilà. Pensons à celui qu'on reçoit. Et puis enfin, pour terminer, évidemment, n'oubliez pas l'action de grâce. L'action de grâce qui est fondamentale. C'est triste de voir des personnes partir tout de suite dès la fin de la messe, et encore souvent même avant que le prêtre soit ait quitté l'autel. Bon. Attention, ne jugeons pas non plus. Ne jugez pas si par hasard, une fois, une personne s'en va. Bon, on peut avoir des causes qui le justifient. Mais de manière habituelle, non. Sachez, bon, attendre déjà un minimum de politesse que le prêtre soit rentré à la sacristie, puis après, faites votre action de grâce. L'action de grâce, c'est remercier. Bon, vous connaissez le petit mot facile pour retenir, ardor. Adorer, remercier, demander, offrir, résolution. Mais sachons d'abord, quand on rentre de la Sainte Table, donc on est un ciboire vivant, on a notre Seigneur, première chose, c'est adorer. Donc on fait vraiment abstraction de tout ce qui est à côté. Encore une fois, si vous avez des enfants, soyez pas... Tant pis, hein, j'allais dire, il faut d'abord vous occuper des enfants, c'est normal. Mais bon, dans la mesure du possible, adorer. Donc celui qui est présent en vous. Et puis parlez-lui. Souvent, certains commencent uniquement, on vient communier. Bon, Jésus, vous pouvez me devenir, je voudrais ça, 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 telle grâce. Non, pas tout de suite. D'ailleurs, mon Dieu, je vous adore, je vous aime, vous êtes présent en moi, mon Seigneur, mon Dieu, etc. Donc, on parle avec celui qui est présent dans notre âme, l'hôte divin. C'est un ami, donc on essaie de l'écouter, on lui fait part de nos soucis, de nos difficultés. On le remercie des lumières, des grâces qu'il a pu nous donner, donc ne soyons pas des ingrats. Pouvez-vous aider des prières du missel, des prières du prêtre, de l'action de grâce. Puis il y a beaucoup de prières dans nos missels, donc ça peut vous aider. Ensuite, eh bien, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut transformer dans notre vie, dans les résolutions qu'il faut peut-être prendre, revenir sur tel ou tel point. Puis évidemment, après, n'oublions pas de prier, hein, pour toutes les personnes qui nous sont chères. Aux grandes intentions de l'Église, etc. Mais surtout, n'oublions pas cette action de grâce. Souvent, on se dit, ah, je fais beaucoup de communion, mais je ne progresse pas dans ma vie spirituelle, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Bon, outre que d'abord, si vous ne faisiez pas, votre état serait pire. Et puis d'autre part, eh bien, si vous n'avez pas tous les fruits que vous escomptez, ben, peut-être essayez de voir, est-ce que vous faites bien votre action de grâce. Bah, prenez un exemple sur un plan très naturel. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un et que cette personne ouvre son cadeau et puis ne vous dit pas un mot, ne vous remercie pas, est-ce que vous avez envie de lui refaire de nouveau un cadeau? Bah, pas vraiment. Bah, avec le bon Dieu, c'est un peu pareil. Si vous faites toutes ces grâces et puis vous pensez à toute autre chose, vous ne le remerciez pas, bah, d'une certaine façon, le bon Dieu il va vous donner moins de grâce après. Hein? Donc l'action de grâce est très importante, hein, pour notre vie spirituelle. Voilà, donc j'espère vous avoir donné un peu plus de goût pour la Sainte Messe, pour la Sainte Communion. Donc essayez de réfléchir à ça, de méditer sur l'importance de la Messe, notre Seigneur qui renouvelle ce sacrifice, qui le rend présent sur l'autel pour nous en faire appliquer les mérites. Ces mérites. Donc, soyons bien, essayons de faire toujours bien attention aux messes, de bien y assister, puis toujours bien préparer nos communions et de bien faire nos actions de grâce.
Donc, le sujet de cette conférence, conseils pratiques et résolutions. On ne va pas partir dans les hautes sphères. C'est quand même une conférence, j'espère, qui va être importante. En effet, le but de cette retraite, j'espère que vous l'avez bien compris quand même, c'est être plus proche du bon Dieu. Donc j'ose espérer que votre intelligence a été éclairée par les différentes instructions. Vous avez pu voir ainsi la grandeur, la bonté de Dieu, son plan qui a été détruit par le péché, notre Seigneur qui vient nous racheter, instituer les sacrements pour nous donner la grâce, pour nous donner cette vie de Dieu même en nous. Alors comment correspondre à ce plan de Dieu, à cet amour de Dieu pour nous ? Voilà un petit peu ce qu'on a vu. Et bien maintenant, ça va être à notre volonté d'agir en suivant les lumières du Saint-Esprit. Alors pour cela, bien, il va falloir prendre des résolutions, c'est-à-dire des règles pratiques qui vont nous aider à entrer dans ce plan de Dieu. Pour bien se mettre dans ce plan de Dieu, ce que Dieu attend de nous, il va falloir prendre quelques règles pour nous permettre de corriger ce qui ne va pas, de pratiquer telle ou telle vertu, au contraire de gravir les échelons de la sainteté. Alors voilà le but de cette conférence, c'est d'être un peu plus pratique, de voir comment mettre en pratique ce que vous avez pu voir dans les différentes instructions. Alors, je pense que vous avez pris cette feuille donc de résolution. Bon, je vais évidemment la développer un petit peu, parce qu'autrement, dans 5 minutes, c'est terminé. Alors, la retraite, donc, je pense, a dû vous donner quand même quelques lumières sur votre vie chrétienne. Vous avez pu voir tel défaut à corriger, ou alors tel bien à accomplir. Vous avez envie de faire telle ou telle chose, ou alors tel mal à omettre, telle pratique à améliorer, tel effort de volonté à faire, etc. Donc il va falloir se donner les moyens pour mettre en pratique ces lumières. Lumières que vous a donné le Saint-Esprit. Autrement, si on ne prend pas de résolution, évidemment la retraite risque de n'avoir aucun effet durable. Ça peut être qu'un feu de paille. En clair, vous êtes passé une semaine de vacances. Quelles vacances ! Donc, quels conseils généraux tout d'abord ? Alors, il faut choisir non pas ce qui plaît ou flatte notre nature déréglée, mais plutôt ce qui va contrarier notre défaut dominant. C'est-à-dire, il va falloir essayer d'aller à l'essentiel. Si par hasard, votre défaut dominant est la colère, ce n'est pas la peine de prendre comme résolution, bien voilà, dans mon café le matin, je mettrai 2 sucres et demi au lieu de 3. Il n'y a aucun rapport. Évidemment, mettre 2 sucres et demi au lieu de 3, ça ne va pas faire un gros effort. Et puis, ça ne va pas changer votre colère. Ensuite, autre conseil important, évidemment, c'est ne pas multiplier les résolutions. Alors, ne prenez pas, donc ne les multipliez pas. Exemple première, je me lève à 5 heures. Deuxième, je fais 1 heure de méditation. Troisième, toute la famille se lève à 6h30. Quatrième, la prière. Cinquième, le petit déjeuner à 7h30. etc. Vous prenez toute la liste. Enfin, 73e et dernière résolution, extinction des feux à 23 heures. Évidemment, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, choisissez-en peu, mais qu'elles soient bonnes, donc vraiment médicinales. Et puis ensuite, il va falloir s'appliquer, bien être fidèle coûte que coûte, de manière durable. Enfin, je vous dirai s'il y a des ajustements à faire. Alors, il ne s'agit pas forcément d'ajouter de nouvelles pratiques. Si vous dites déjà 3 rosaires par jour, c'est peut-être pas la peine d'en mettre un quatrième. C'est pas la peine forcément d'ajouter de nouveaux exercices de piété, ça dépend de chacun. Il peut s'agir d'améliorer tel ou tel point, par exemple dans la manière de faire sa prière, enfin je vais y venir. Ou alors éviter telle ou telle occasion de pécher, de faire le sacrifice de tel ou tel esclavage, etc. Donc bien, on ne fait pas dans la quantité, là il va falloir voir la qualité. Ensuite évidemment ces résolutions notez-les. Et puis, les noter veut dire quand même les relire de temps en temps. Parce que si vous les notez maintenant ou dans 2-3 jours, et puis que dans 6 mois, vous ne les avez pas relus, évidemment, vous aurez déjà oublié. C'est sûr. Donc, il faut les noter pour s'en rappeler. Alors, quand est-ce qu'on peut s'en rappeler? Des petits moyens très faciles. Bon, par exemple, avant une confession régulière. Ou alors, si vous faites des petites récollections. Donc, à ce moment-là, on relit ses résolutions. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à réajuster ces résolutions avec votre confesseur, par exemple. Si vous apercevez que vous avez pas, que la résolution choisie, par exemple, est insuffisante, vous n'en avez pas mis assez, vous pouvez voir avec votre confesseur pour en rajouter. Ou alors, l'inverse, où elle est trop lourde, par exemple. Vous avez pris 75 résolutions, alors vous pouvez voir avec votre confesseur, évidemment, lesquelles il faut éliminer. Ou alors, si elle n'est pas assez précise. Ou est-ce qu'elle est trop dure à tenir? Ça peut arriver. Donc tout cela, ça permet de bien faire confiance à son confesseur ou à un prêtre habituel que vous voyez pour lui demander des conseils. En tout cas déjà, pour ne pas faire d'erreur, ou du moins pour les limiter, il est important de les faire contrôler, ces résolutions, par un prêtre avant de partir. Donc n'hésitez pas à aller voir un des prêtres et puis lui dire, je pense prendre ça, ça, ça. Donc déjà, ça peut vous donner une idée. Alors la liste que vous avez n'est pas exhaustive, évidemment, elle est simplement indicative. Et puis toutes les choses signalées n'ont pas non plus la même importance, ni la même gravité. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de prendre toutes les résolutions qui sont indiquées, mais celles qui vous conviennent individuellement. Donc évidemment, je vais les commenter, mais là aussi, ce sera à vous d'apprendre à laisser, ça oui, c'est vrai, il va falloir que je le fasse, ça non, etc. Alors commençons par la vie de prière. Bon, évidemment, on vous a mis prière du matin, prière du soir. Bon, je veux dire, c'est évidemment le béaba, enfin, c'est le minimum. La prière du matin, on offre sa journée, pater, ave, credo, etc. Prière du soir. Bon, ce que vous pouvez voir, c'est est-ce que vous les faites de manière régulière? Ou comment vous faites vos prières? Est-ce que c'est expédié en moins de deux? Ou pas, ou est-ce que vous faites ça vaguement dans un petit coin, ou alors si vous êtes à genoux, est-ce que vous essayez de vous recueillir, etc. Alors je vous rappelle les qualités de la prière, comment faire une bonne prière, peut-être vous en a parlé, je ne sais pas. Bon, juste un rappel, les qualités de la prière, la première c'est l'attention, c'est-à-dire que notre esprit est occupé de ce qu'on dit à Dieu ou des choses de Dieu. Alors s'y oppose évidemment la distraction. Alors la distraction, les choses, il faut qu'elles soient claires. Il faut distinguer les distractions volontaires de la distraction involontaire. Bon, distraction volontaire, bon, c'est facile, quand même, vous faites exprès. Vous faites exprès de. Voilà, vous êtes à la chapelle, à prier, puis bien non, vous faites exprès de penser à autre chose. Pendant la messe, l'évangile est fini, le prêtre commence le sermon. Bien, alors maintenant, je vais penser à mon repas, qu'est-ce qui vient tout à l'heure? Ah, c'est vrai que j'ai ma belle-mère qui vient. Et puis pendant ce temps, le prêtre qui parle sur la charité envers les membres de sa famille. Ma belle-mère. Donc ça, évidemment, distraction volontaire. Donc ce sont celles qui sont coupables, évidemment. Par contre, il arrive des distractions qu'on n'a pas voulu, qui sont involontaires. Alors qu'est-ce qu'on fait quand les distractions sont involontaires? Il faut tout simplement en détourner son esprit, mais les désavouer doucement. C'est-à-dire, on s'en aperçoit, à quoi je suis en train de penser? Tout simplement, on les repousse doucement dès qu'on les aperçoit. Alors évidemment, ces distractions rendent la prière plus pénible, mais aussi plus méritoire. Quand on persévère à prier malgré les distractions, bien la prière devient beaucoup plus méritoire. Se prier quand tout est facile, à la limite, il n'y a pas de mal. C'est bien, tant mieux, profitons-en. Mais quand on a des distractions, c'est vrai que c'est plus difficile, mais plus méritoire. Alors voilà ce que dit saint François de Sales. Ne vous étonnez nullement de vos distractions, froideur et sécheresse, tandis que votre courage est immobile et invariable aux résolutions que Dieu vous a données. Cela se passe en vous du côté des sens et en la partie de votre cœur qui n'est pas à votre disposition. Si 100 fois une pensée inutile se présente à vous dans l'oraison, 100 fois détournez-en votre esprit et vous aurez fait une excellente oraison. Et oui, c'est vrai. Même idée qui vient pendant 50, 100 fois, mais pendant 100 fois vous la repoussez, paf, ça sonne, c'est la fin de l'oraison. Ah, j'ai rien fait, mais si. Si, tout à fait. Vous avez prouvé votre amour de Dieu en repoussant 100 fois cette distraction. Et là, le bon Dieu a vu vos mérites. Donc ne dites pas, j'ai passé mon temps, j'ai rien fait, donc j'abandonne mon oraison. Ben non. Là, c'est le démon qui gagnera autrement. Donc savoir détourner doucement son esprit, de ses distractions. Ensuite, nous en humilier et puis nous supporter nous-mêmes. Alors ça, c'est peut-être le plus difficile. C'est-à-dire ne point nous décourager ni nous abattre. Parce que Dieu, plein de bonté et de douceur, les souffre avec une grande patience et les fait servir à sa gloire et à notre salut. Donc ces distractions, en nous montrant combien nous sommes peu maîtres de nos pensées, de nos désirs, nous fournissent l'occasion d'avancer dans l'humilité. On dit, je suis vraiment pas grand-chose. Et donc, le bénéfice, c'est qu'on est plus humble. Voilà une autre citation, alors celle-ci de saint Augustin. « Vous me tolérez, mon Dieu, avec une douceur admirable. Je suis malade et je m'écoule comme l'eau. Guérissez-moi et je serai stable. Affermissez-moi et j'aurai de la fermeté. » Mais jusqu'à ce que vous me mettiez dans cet état, tolérez-moi. Donc ça, c'est une très belle prière. Ah oui, mon Dieu, tolérez-moi avec toutes ces distractions. Donc, surtout, ne soyons pas troublés par ces distractions. Que ça ne nous décourage pas de continuer à prier. Parce qu'autrement, celui qui sera gagnant, si on abandonne, évidemment, ça sera le démon, ce ne sera pas le bon Dieu. Donc, première qualité, l'attention. Deuxième qualité de la prière, l'humilité, c'est-à-dire le sentiment profond de notre indigence, de notre impuissance, de notre indignité. Rappelez-vous comme le publicain qui est resté au fond du temple, « Je suis un pécheur, ayez pitié de moi, je suis un pécheur ». Donc, humilité dans la prière. Donc, nos prières aussi, faisons-les avec foi. C'est-à-dire prier avec certitude que Dieu peut nous accorder tout ce que nous lui demanderons. Avoir la foi. Avoir la confiance aussi. Prière confiante, c'est-à-dire avec la ferme espérance que Dieu nous exaucera. Ferveur. Prier avec ferveur, c'est prier avec amour, avec un grand désir d'obtenir ce que nous demandons. Alors aussi, attention, la ferveur consiste essentiellement dans notre volonté. Désir vraiment prier, faire la volonté du bon Dieu, honorer Dieu. Mais il y a un point important, c'est que cette ferveur peut se concilier avec la sécheresse et même le dégoût de la prière. On peut très bien ne rien sentir, au contraire, même être dégoûté, même être sec, complètement sec. Alors là, néanmoins, on peut avoir une ferveur. Souvent, l'erreur, c'est de faire consister notre ferveur dans une impression sensible. C'est-à-dire que je sens, je suis bien en prier comme ça, je sens que ma prière porte ses fruits. Et puis le jour où on ne sent plus rien, on dit, ma prière ne porte aucun fruit. Bien non, non, c'est pas là. La ferveur est dans la volonté. Donc même si on est complètement sec, bah, continuez à prier néanmoins. Le bon Dieu vous écoute. Et puis persévérance, dernière qualité, la persévérance, c'est ne point se lasser de prier. Et là aussi, quand on a, j'ai pas obtenu ce que je voulais. Au bout d'une journée, non, j'ai pas obtenu. Bon, alors on arrête tout. Non. Là, toujours le très bel exemple, il faut y revenir souvent, c'est l'exemple de la Cananéenne dans l'Évangile. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une femme cananéenne étant sortie de ce territoire, criait en disant « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient « Faites-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » À quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant « Seigneur, venez à mon secours. » Il lui répondit, il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Eh bien, elle ne se démoralise pas. Oui, Seigneur, dit-elle, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Ah ben, si c'est comme ça, je m'en vais. Il ne me répond pas, je pars. Alors Jésus lui répondit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Vous voyez, c'est ce bel exemple de persévérance. Donc, sachons nous en souvenir quand on a du mal.
Une annexe peut-être à ça, apprenez aussi la pudeur à vos enfants. Je crois que ça commence quasiment dès le berceau. Donc ça, c'est important de la part de la mère. Il y en a qui peuvent l'être plus ou moins naturellement, mais c'est un problème d'éducation. Et on voit bien la différence. Des enfants qui sont très pudiques, donc il n'y a rien à redire, surtout en vie d'internat. Par contre, d'autres ne le sont pas. Alors, il faut... Nous, à notre tour, leur apprendre la pudeur. Ben, c'est pas normal. À 8 ans, en principe, un enfant est pudique. Donc, ça, c'est en principe, c'est quelque chose qui a été appris à la maison. Donc ça, il faut... Veillez-y, hein, ça fait partie de votre devoir d'État. Donc, pas laisser les enfants courir tout nus partout dans la maison, non. Non, apprenez-leur la pudeur. Et après, c'est une vertu, la pudeur qui protège la chasteté. Hein, donc, au contraire, ce n'est pas à mépriser. Bon, les revues mondaines et compagnie, donc attention, évidemment. Bon, je vais accélérer parce que ça te passe, finalement. Lutte contre le défaut dominant. Bon, là aussi, évidemment, il faut le connaître, ce défaut dominant. Ah, je connais pas. Je suis parfaite, je sais pas quel est mon défaut. Bon, c'est facile, demandez à votre mari. Là, vous le saurez, votre défaut. Ou alors, demandez à vos parents. Ou à vos amis. Généralement, les autres connaissent le défaut. Donc, demandez. Et puis ensuite, prenez le moyen de le combattre. Ensuite, donc maintenant, j'arrive aux vertus donc, à pratiquer. Donc, la charité, c'est important à l'égard du prochain, en pensée, attention, les rancunes. Priez pour les siens, priez pour sa famille, évidemment, pour l'Église, les vocations. Charité en parole, attention à la médisance, à la calomnie. Là aussi, souvent, on n'y fait peut-être pas assez attention. La calomnie donc, consiste à nuire à la réputation du prochain en lui imputant des fautes qu'il n'a pas commises ou des défauts qu'il n'a pas. La calomnie peut être grave. Donc, il faut mesurer la gravité du tort qu'on cause au prochain. Par exemple, dire qu'une secrétaire ne tient pas sa langue, c'est vous lui causer du tort. Donc, ça peut lui nuire dans son travail, par exemple. Alors, évidemment, attention aussi quand on écoute des médisances ou des calomnies. Quand est-ce qu'il y a faute à écouter? Alors, il y a faute à écouter quand on incite l'autre à calomnier. Ensuite, on commet une faute quand on se réjouit de la calomnie. Ou alors quand on n'empêche pas la violation de la réputation du prochain alors qu'on le pourrait. Si on ne l'empêche pas alors qu'on peut, on commet une faute aussi, on écoute. Alors, il faut savoir réparer aussi les dommages. Parce que c'est une injustice, la calomnie et la médisance ne concernent pas uniquement la charité, c'est pas uniquement un manque à la charité, c'est aussi un manque à la justice. On a droit à sa réputation, à son honneur. Et si on va contre l'honneur, la réputation, on doit réparer, parce que c'est une faute qui va contre la justice. Alors pour une calomnie, c'est facile à réparer parce qu'il suffit de dire qu'on a menti, puisque c'est faux. Par contre, pour une médisance, c'est plus compliqué. Et évidemment, une médisance qu'on a dit est vraie. Alors après, pour dire que c'est pas vrai, on va mentir, donc on peut pas. Non, ben, il faut essayer de parler plutôt des qualités de la personne dans ce cas-là. Donc attention, hein, cette médisance, cette calomnie, on peut faire vraiment beaucoup de mal. Alors que ce soit évidemment en famille, ou auprès de son conjoint, de ses proches. La joie chrétienne, et puis devoir d'État. Ce qui est important, se faire un emploi du temps. Qu'est-ce que je fais maintenant? Non, ben c'est pas ça, non. Fixez-vous un emploi du temps. Donc l'heure du coucher, l'heure du lever, le temps donné à Dieu quand est-ce qu'on va faire nos prières, etc. Le travail, loisirs, la famille, etc. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Devoir envers Dieu, bon, on en a parlé. Devoir propre à son état. Entre époux. Donc de temps en temps, n'oubliez pas que vous êtes épouse et mère. C'est-à-dire que il y a un danger qui peut vous guetter, c'est quand vous avez des enfants. Eh bien, vous vous occupez que de vos enfants et de laisser un peu votre devoir d'épouse. Alors, attention à ça. N'abandonnez ni l'un ni l'autre. Soyez mère, occupez de vos enfants, occupez-vous de vos enfants. Soyez épouse, occupez-vous aussi de votre époux, de votre mari. Hein, donc, ça, il faut y veiller. Hein. Vous êtes le cœur de la famille. Il faut que votre mari soit content de rentrer chez lui le soir après son travail. Qu'il soit bien reçu. Comment c'est à cette heure-ci que tu rentres ? Le classique. Souvent, c'est vrai, de temps en temps, bon, là aussi on dit aux hommes de faire attention, de ne pas que le travail ne domine pas, enfin ne prenne pas le dessus de la vie de famille. Bon, sachez que c'est quand même pas toujours très facile, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Avec les 35 heures, c'est-à-dire en clair, on leur demande de faire en 35 ce qu'ils faisaient avant en 39. Donc c'est pas, on va pas embaucher en plus, c'est pas vrai. C'est que maintenant, bah, vous avez 35 heures pour faire le même travail. Alors, bah, donc pensez à ça. Souvent, certaines femmes, effectivement, ne comprennent pas que le mari peut être fatigué après une journée de travail. Vu le stress actuel, c'est vrai. Alors n'oubliez pas ça, hein, d'être de votre devoir d'épouse aussi. Donc de faire aussi attention à votre mari. Donc soyez le cœur de la famille, vraiment là où bah, on aime se réfugier, la famille est agréable. Et puis aussi, je pense de temps en temps, le devoir de s'asseoir, de se parler. Là, c'est aussi, c'est important. Hein, savoir de vous parler entre vous. Parce qu'il y a souvent plein de petites bricoles qui peuvent prendre des proportions invraisemblables, parce que tout simplement, on ne sait pas parler. On reste chacun de son côté. Non. Et puis enfin, devoir de l'éducation chrétienne, là aussi c'est important. Bon, ben, évidemment, je vais vous dire, veillez aux écoles, bonnes écoles. C'est un devoir grave, hein, surtout quand on voit les programmes d'aujourd'hui. Un devoir que je rappelle toujours, là aussi c'est important parce qu'on est confronté nous en internat à ça, c'est à vous parents d'apprendre aux enfants ce qu'on appelle les lois de la vie, pudiquement les lois de la vie. C'est à vous, c'est le devoir des parents. C'est évidemment l'éducation officielle, disent que c'est à l'école d'apprendre toutes ces lois de la reproduction. Donc ils font ça...